France Inter, le 18-20.
Au téléphone sonne ce soir, où en est le processus Parcoursup? Alors que le système fait une pause cette semaine pour les épreuves écrites du bac, le serveur va reprendre du service mardi prochain, 26 juin, avec l'ouverture de la phase complémentaire. Pour l'instant, 78% des 812 000 candidats ont obtenu au moins une proposition pour poursuivre leurs études, mais ils sont tout de même 174 000 sans rien pour le moment. Ce qui, soit dit en passant, n'est pas terrible pour le moral des intéressés au moment de passer le bac. D'ailleurs, certains le disent clairement, cette année, ce n'est pas le bac que l'on passe, c'est Parcoursup. Parcoursup, un système d'affectation mais aussi de sélection qui ne dit pas son nom. Un système destiné à gérer la pénurie des places dans certaines filières, rendue encore plus aiguë du fait de l'arrivée des enfants du baby-boom de l'an 2000. Un système d'attribution des places qui pose bien des questions sur la façon dont les universités trient les dossiers. Alors ce soir, si vous avez des questions, c'est le moment ou jamais, d'autant qu'il va y avoir du changement au niveau des délais de réponse notamment. Avec nous pour en parler, Jérôme Teilhard, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes chef de projet au ministère de l'Enseignement supérieur, chargé de Parcoursup. Lila Lebas, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la présidente de l'UNEF et vous n'avez plus vraiment de voix ce soir, mais enfin je pense que ça va aller quand même. Sonia Bourane, chargée des questions d'éducation à la rédaction de France Inter. Bonsoir,
bonsoir
Sonia. Le sociologue Stéphane Beau est resté avec nous également. Bonsoir à vous.
Rebonsoir.
On attend vos appels au standard du téléphone sonne. Vous êtes déjà très nombreux à appeler ce soir 01 45 24 7000.
Claire Servageant, le téléphone sonne.
Un premier appel, celui de Thierry qui est en ligne et qui nous appelle pour... C'est pour votre fils Thierry, bonsoir.
Oui, tout à fait, bonsoir. Merci pour vos émissions d'abord. Je vous appelle en fait tout simplement pour savoir si à partir du 6 juillet, lorsque les heureux bacheliers auront leur bac et leurs notes, est-ce que les notes qu'ils auront reçues vont en fait booster ou ralentir les classements dans les listes d'attente ou est-ce que c'est complètement indépendant des notes, du résultat du bac?
Merci Thierry. Est-ce que le bac compte pour du beurre dans cette affaire de Parcoursup, Jérôme Teilhard?
Alors, le bac sert pour un dispositif qui s'appelle Meilleur Bachelier, qui est un dispositif qui existe et qui permet de valoriser. Ils seront aussi sur... Je pense des bacheliers technologiques dont les mentions bien et très bien leur permet d'avoir des accès de droit dans les filières technologiques, mais il n'est pas pris en compte dans les classements qui ont été faits, je le rappelle, jusqu'au 18 mai par l'ensemble des formations et qui étaient pris en compte depuis le 22 mai dans les propositions qui sont faites. Par contre, depuis à partir de mardi, le 26, la fin des épreuves écrites, le lendemain de la fin des épreuves écrites du baccalauréat, on a une nouvelle phase qui va s'ouvrir, qui est la phase complémentaire, qui permet aux jeunes de faire des nouveaux vœux sur des places qui sont vacantes.
Alors ça, on va en parler. Il y a le bas sur le fait que, a priori, le bac n'est pas tellement pris en compte.
Le bac, en tout cas, il permet de continuer sur la plateforme et de continuer à espérer une inscription dans l'enseignement supérieur. Mais évidemment, ce qu'on voit, et vous l'avez dit tout à l'heure, c'est qu'on a aujourd'hui quasiment 175 000 jeunes qui sont toujours sans aucune proposition, dans l'inquiétude complète, alors même qu'ils passent les épreuves du baccalauréat, pour savoir si oui ou non ils auront accès à la filière de leur choix, ou même s'ils auront accès à l'université in fine.
Stéphane Beau, sur le fait que le bac n'est plus la porte d'entrée à l'enseignement supérieur, c'est quand même une réalité.
Oui, c'est un changement majeur, puisque comme vous le savez, depuis très longtemps, le bac donne droit à l'entrée à l'université. Donc effectivement, cette réforme de l'université, dite réforme Macron ou Vidal, est une mutation majeure dans ce système, avec bien sûr un tas de conséquences très importantes et un changement, on pourrait dire, d'orientation. C'est-à-dire qu'effectivement, avant, on obtenait le bac et ensuite on continuait. Cette fois-ci, on voit bien. Et donc, c'est encore un caractère très brutal. C'est ça qui me semble important à dire, je crois, aujourd'hui. C'est que ça s'est fait très, très rapidement. Et donc, tout d'un coup, un tas de lycéens se retrouvent sans affectation. Donc, on verra comment les choses se dérouleront par la suite. Mais en tant qu'universitaire, c'est vrai que nous vivons ça. Quoi. Là, je parle du côté des universitaires.
Professeur à l'université de Poitiers,
oui,
je précise. Hein.
Voilà, il y a la brutalité et le caractère très, très improvisé, si on peut dire, la réforme fait que tout le monde est un peu à cran. C'est ça, je pense aussi, il faut dire. Moi, je voudrais dire aussi à quel point, parce qu'on est dans une radio service public, je voudrais rendre hommage à tous les personnels du service public, de l'éducation nationale, dans les universités. Je vois depuis des mois et des mois ce qu'ils sont obligés de faire dans des conditions très très difficiles. Il y a bien sûr l'angoisse des parents, l'angoisse des jeunes, mais je voudrais insister sur cet aspect-là. À l'université, malheureusement, nous sommes dans des restrictions budgétaires très conséquentes et je voudrais ici mentionner cet aspect-là. Tout ça se traduit aussi par une surcharge de travail extrêmement importante, une charge de tension importante et les personnels administratifs, notamment à l'université, font un travail absolument remarquable, il faut le dire.
Jérôme Teilhard, vous souhaitiez...
Moi je confirme qu'il y a eu un très fort investissement de la part de l'ensemble des enseignants. Je le dis d'ailleurs dans l'enseignement secondaire, puisqu'il a fallu accompagner, c'est un des enjeux. Je rappelle que la loi orientation et réussite, elle a bien ce mot orientation et d'accompagner. Et la plateforme Parcoursup, elle est là pour construire cette continuité entre l'enseignement secondaire et l'enseignement supérieur. C'est un des aspects nouveaux, c'est un des aspects que les lycéens ont pu voir depuis cette année, accompagné depuis le premier trimestre avec deux professeurs principaux. Et je crois que c'est l'un vrais enjeux d'avenir. On entend depuis 10 ans parler du moins 3 plus 3 comme le finalement en quelque sorte l'objectif à atteindre, et jusqu'à présent on n'avait pas de moyen d'organiser cette continuité. Elle est organisée à travers les attendus, elle est organisée à travers le dialogue entre les enseignants du secondaire et les enseignants du supérieur. Il faut l'approfondir, et ça c'est le travail de toutes les années qui viennent évidemment, mais je crois que l'enjeu c'est l'accompagnement des lycéens, l'accompagnement pour une continuité en leur donnant beaucoup plus de visibilité sur ce qu'est leur accès à l'enseignement supérieur.
Je pense que vous êtes tout à fait d'accord. D'ailleurs, l'UNEF a vivement protesté. On va rappeler quand même ce qui s'est passé dans un certain nombre d'universités au cours du printemps.
Tout à fait. Nous, on a contesté cette réforme puisque, au lieu justement de laisser le baccalauréat comme passeport pour accéder à l'université, pour accéder à la filière de son choix, cette réforme, elle instaure une sélection à l'entrée de l'université. Une sélection qui se fait sur la base des notes des bacheliers, du type de baccalauréat qu'ils ont passé, du type de lycée dans lequel ils viennent. Il y a d'ailleurs des études d'enseignants-chercheurs et de chercheurs qui ont été faits en Ile-de-France et qui démontrent bien les inégalités qu'il y a.
Il n'y a pas d'études. Il y a des éléments. Moi, je veux bien qu'on avance des tas de chiffres.
Mais il n'y a pas d'études.
Mais il n'y a pas d'études. Enfin, il ne faut pas donner un caractère scientifique à des éléments qui ne sont pas constatés. Chaque année, il y a sur la base de, que ce soit sur APB comme sur Parcoursup, on publiera les chiffres. Et la ministre a installé des comités de suivi à la fois éthiques et scientifiques. Mais vous n'avez des données aujourd'hui que sur les candidatures, celles qui se sont arrêtées au 31 mars. Et on a fait cette transparence sur ces éléments-là. On indique chaque jour des éléments globaux. Et il y aura, à partir du moment de la fin de la procédure, qui est en septembre, il y aura tous ces éléments qui sont publics. Et la ministre a souhaité mettre un comité de suivi pour précisément évaluer ces éléments.
On va laisser parler Lila Lebas.
Oui, donc moi je disais qu'il n'y a pas de continuum entre le lycée et l'université quand on instaure justement cette sélection à l'entrée qui va exclure des jeunes et ne pas leur permettre d'avoir accès à la filière de leur choix. Et quand on a une loi qui s'appelle orientation et réussite des étudiants, orientée par défaut les étudiants, alors même que c'est une des causes d'échec importantes à l'université, pour nous ça nous semble particulièrement contradictoire et particulièrement hypocrite de la part de ce gouvernement en tant que tel. Et donc nous, on veut bien avoir évidemment l'ensemble des informations, notamment comment le tri est effectué, puisqu'il y a tout un tas d'algorithmes locaux qui sont mis en place par les universités pour pouvoir effectuer ces classements-là. Justement, le fait qu'il y ait encore des milliers de jeunes qui sont sur liste d'attente, c'est dû à des algorithmes qui sont faits, qui ne sont pas publics pour l'instant. Et donc, on aimerait bien les avoir pour savoir comment exactement les jeunes sont triés.
Alors, on va essayer de répondre à toutes ces questions, mais comme cette émission s'appelle Le Téléphone Sonne, on va régulièrement partir au standard pour entendre les auditeurs qui nous appellent. Cette fois, c'est Camille qui est en ligne du Vésinet. Bonjour Camille. Camille, bienvenue à vous.
Merci, bonsoir, merci de prendre ma question. J'avais une question effectivement sur votre interlocuteur a parlé tout à l'heure de la possibilité de reformuler des vœux à partir du 26 juin. Et alors j'avais compris que cette reformulation des vœux était pour les élèves qui n'avaient pas eu de réponse positive. Et ma question, c'était pour ceux qui avaient eu des réponses positives, mais dont ces réponses ne les intéressaient pas. Enfin, c'était des filières pour lesquelles on les avait un peu forcés de s'inscrire pour être sûr d'avoir une réponse positive, mais qui n'ont eu que des réponses négatives dans les filières qui elles, les intéressaient. Est-ce que ces élèves-là pourront également reformuler des vœux dans des filières qui les intéressent?
Merci Camille pour cette question. À qui s'adresse la procédure complémentaire qui va débuter le 26 juin?
Alors je précise, il n'y a pas de vœux forcés avec Parcoursup. Avec APB, il y avait des vœux contraints, il n'y a pas de vœux contraints avec Parcoursup. Mais pour répondre à Camille, oui, la procédure complémentaire, elle est ouverte à la fois à ceux qui n'ont pas eu de proposition, qui sont en attente, à ceux qui ont été refusés, qui sont aujourd'hui pour certains accompagnés par les commissions rectorales, mais elle s'adresse aussi à des personnes qui ont pu accepter une proposition, qui souhaitent, en regardant des places vacantes, finalement repositionner, et ils devront faire un choix s'ils reçoivent une proposition positive, et peut-être ça les induira à renoncer à la proposition initiale. Et c'est précisément l'intérêt de Parcoursup, c'est que Parcoursup, on n'est pas lié par un choix. C'était le cas sur APB. APB, quand on refusait la proposition qu'on avait eue, on était démissionné de cette procédure. Et ça, c'est ce qu'on a voulu ne pas reproduire à travers Parcoursup, c'est toujours l'étudiant qui a le dernier mot.
Oui, mais est-ce qu'à l'inverse, ça ne va pas encore plus engorger le système, puisque déjà, là, on devrait d'abord régler le problème de ceux qui n'ont peut-être pas de solution satisfaisante.
Et bien sûr, c'est l'objectif, et c'est pour ça que la phase complémentaire leur est ouverte. Mais on ne peut pas exclure qu'un candidat ait une envie. Moi, je ne crois pas. Ceux qui ont des propositions, sans doute ont-ils attendu, et je crois que c'est aussi la nouveauté de la procédure. Nous leur avons garanti, pour sécuriser aussi les candidats, qu'ils pouvaient garder leurs vœux en attente. Évidemment, c'est une nouveauté du processus, mais on sait aussi que certains vont avoir des choix, et aujourd'hui, ils ont passé le baccalauréat, demain, ils auront les résultats du baccalauréat. Certains, je le rappelle, il y a 15 à 20% de l'offre de formation de l'enseignement supérieur qui est en dehors de Parcoursup. Ils vont avoir des résultats. Hier, c'était les résultats des Sciences Po. Et nous les encourageons, à ce moment-là, à se désinscrire de Parcoursup pour laisser la place à d'autres. C'est ça le processus. Quand on fait des choix, on libère des places pour d'autres qui sont en attente.
Vous ne croyez pas que vous allez encore engorger le système un petit peu plus, parce que 174 000 personnes qui attendent déjà, plus ceux qui vont arriver?
Mais en fait, ce n'est pas plus ceux qui vont arriver. Je vais prendre un exemple de ceux qui vont arriver, parce que précisément, quand j'avais fait le téléphone sonne avec vous, on avait ce cas de figure. Un candidat n'a pas répondu le 13 mars, n'est pas prêt de candidature sur Parcoursup. Qu'est-ce que je lui dis? Qu'il est éliminé? Qui peut jamais revenir? Eh bien non. La procédure complémentaire, elle lui permet d'avoir un accès. Mais je ne crois pas à l'engorgement. Ceux qui ont eu des propositions, ils sont de l'ordre de 600 000 à avoir accepté en gardant un vœu en attente ou en ayant accepté définitivement. Ces gens-là, ils ont des propositions. Je pense qu'ils ont les propositions qui leur plaisent. Et je crois que la phase complémentaire, elle permet ce roulement. Et quand on reprend une proposition, on en laisse une. Ceux qui ont déjà, ils ne pourront pas garder deux places. C'est ça le principe du système.
Lila Lebas.
Oui, heureusement. En tout cas, heureusement que la phase complémentaire permet à des jeunes de pouvoir espérer avoir la filière de leur choix. Sauf qu'on le sait, aujourd'hui, c'est assez limité puisque, évidemment, c'est en fonction des places disponibles à l'université. Et malheureusement, trop peu de places ont été créées cette année pour accueillir le boom démographique, justement, des années 2000. On attend à peu près plus 30 000 jeunes en tout dans l'enseignement supérieur pour la rentrée universitaire 2018. Et donc, on va se retrouver confronté à des jeunes qui vont regarder les places disponibles et qui ne vont pas trouver dans la filière de leur choix, même dans la procédure complémentaire. Et donc, déjà aujourd'hui, on voit les propositions qui sont faites sont loin de satisfaire les futurs bacheliers, puisque sur les 600 000 environ qui ont déjà eu une proposition, il y en a à peu près 350 000 qui ont accepté et le reste sont toujours en attente. Ça veut dire qu'ils attendent toujours une réponse qui leur convienne plus, qui correspond à leur projet, et c'est pas le cas. Et nous, on a très peur que la procédure complémentaire ne permette pas cela à ces jeunes-là.
Stéphane Beau.
Je crois que Parcoursup va objectiver, comme on dit, la hiérarchisation du système d'enseignement supérieur. Il y aura bien sûr ceux qui vont être pris d'emblée dans les classes prépa, à Sciences Po, en IT, en BTS, et puis à l'université. Par exemple, ces 170 000 personnes qui n'ont pas encore, élèves, étudiants et lycéens qui n'ont pas obtenu d'affectation, qui sont-ils? Par exemple, ce serait une donnée intéressante. Sociologiquement, quel type de bac, etc. Répartition géographique, répartition socio-professionnelle. Donc, bien évidemment, l'inquiétude, elle est là. D'accord, c'est un système qui va être un peu incolore, même si pour les parents difficiles, pour les très bons élèves, voire les bons élèves, mais ceux qui ne sont pas, et ça existe, des bons élèves au lycée, mais qui peuvent se révéler à l'université, qu'est-ce qui va devenir d'eux? Je pense que c'est une question importante.
Moi, je crois que précisément, vous pointez le dispositif que l'on a souhaité faire avec la dimension réussite, c'est à la fois ces dispositifs d'accompagnement personnalisé, les WICI, comme on dit sur la plateforme Parcoursup, qui sont précisément destinés à venir accompagner des élèves, peut-être dont la filière n'était pas la plus naturellement faites pour eux, mais qui ont une vraie motivation. On leur a demandé de faire des lettres de motivation, vous rappelez, ça a fait débat aussi, mais c'est aussi pour qu'ils expriment une vraie motivation. Et les dispositifs ici à l'université, ils sont là aussi pour accompagner ces jeunes. C'est pas quelques dispositifs, c'est 135 000 propositions qui ont été faites avec des WICI. On en aura sans doute aussi dans la phase complémentaire pour accompagner tous ces jeunes qui souhaitent aller à l'université.
Un candidat sur cinq pour l'instant est sans proposition. Est-ce qu'on a une idée du profil justement de ceux qui pour l'instant sont en attente et qui n'ont rien?
Non, enfin, il y avait au moment où on a eu, moi je reprends par exemple ceux qui se sont tournés vers les commissions académiques, parce que là aussi, depuis le 22 mai, certains n'avaient fait que des vœux en filière sélective et ont été écartés. Et il y avait, globalement, on avait une répartition équilibrée entre des bacs professionnels, des bacs technologiques, des bacs généraux. Mais ce que l'on voit, c'est aussi que ils sont venus, 7000 d'entre eux sont venus pour trouver des solutions, sont accompagnés par ces commissions. Et puis, je crois qu'il faut aussi se dire, parce que ça a existé aussi sur APB, c'est qu'il y a des jeunes qui ont fait des vœux en mars et puis qui ont d'autres projets. des projets de départ à l'étranger, des projets d'emploi, parce que certains bacheliers professionnels, en fait, ont fait des stages, c'est dans leur cursus, et puis finalement, ils ont trouvé une occasion d'aller, une opportunité d'emploi. Certains vont aller 15% de l'offre de formation en dehors de Parcoursup, ce sont les écoles d'infirmières, ce sont les écoles du travail social, ce sont les Sciences Po.
Alors d'autres... justement, une petite question à ce sujet, ceux qui ont des propositions du côté de Sciences Po ou d'autres écoles, est-ce qu'ils sont obligés de démissionner de Parcoursup ?
Absolument, c'est la nouveauté avec Parcoursup. Ce que l'on fait, c'est d'être responsable, simplement en disant, quand on va s'inscrire à Sciences Po, on a sa place, on se désinscrit de Parcoursup. Ça laisse des opportunités pour d'autres. C'est ça le système de responsabilité entre les uns et les autres. Et nous avons travaillé avec l'ensemble de ces filières de formation de manière à ce qu'elles inscrivent sur leur site, qu'elles prévoient dans leur chaîne d'inscription l'exigence de cette attestation de désinscription de Parcoursup.
On repart au standard de France Inter. René nous appelle de Lyon. Bonsoir René.
Bonsoir.
On vous écoute.
Merci de prendre mon appel.
Bienvenue.
Merci à vous. Je vous simplement un témoignage. Nous avons eu l'ouverture d'un BTS. Là, je vais montrer un peu l'envers du décor, hein, du côté de ceux qui recrutent, entre guillemets. Donc, l'ouverture d'un BTS au sein de notre lycée professionnel. Nous sommes un lycée automobile.
Vous êtes élève, vous êtes enseignant, René, pardon?
Un groupe de collègues d'enseignement général et professionnel pour établir la liste principale. Nous avons 20 places en BTS et la liste complémentaire. Donc, en établissant des critères objectifs sur quel dossier on met en premier, quel dossier on met en deuxième, et ainsi de suite. Tout ça a été fait par des collègues très consciencieusement. Voilà, nous avons longuement discuté. Ensuite, ça a été verrouillé. Donc, normalement, dans le cadre de l'autonomie des établissements supérieurs, c'est nous qui avons la main sur le recrutement. Or, quelques jours plus tard, on voit que la liste a été totalement modifié par le rectorat, sans qu'on en ait été prévenu. On a constaté ça à Médusé. On n'a pas été prévenu. On ne sait ni pourquoi ni comment, sur quel critère a été faite cette modification. Et d'autres, certains de nos élèves, bons élèves qui ont fait des demandes de BTS, par exemple en mécanique auto, nous ont interpellés en disant, attendez, monsieur, on comprend pas, on a travaillé d'arrache-pied, on a de bons dossiers et on se retrouve en fond de classement sans une possibilité d'avoir... Et on savait pas trop quoi leur répondre. Et quand on a vu ça, nous, ce qui s'est passé pour nous, si vous voulez, on s'est dit que ça doit se passer ailleurs. Et on est totalement incapable de répondre à nos élèves, y compris aux candidats. Hein, si les candidats venaient nous demander pourquoi on les a pas recrutés ou sur quelle base on les a recrutés, on serait totalement capable de leur répondre. Voilà, personnellement, je trouve ça proprement scandaleux. Mais voilà, c'est juste un témoignage.
Merci René pour ce témoignage. Jérôme Teilhard, qu'est-ce que vous pouvez lui répondre à René ?
Je ne connais pas la situation de René. Ce que je sais et qui est prévu par la loi...
Il y a quand même beaucoup d'incompréhension dans ce qu'il explique là.
Qui est prévu, j'entends, mais c'est pour ça pour dire. Il y a une situation dans laquelle il y a eu une modification de ce classement. C'est pour prendre en compte le critère de boursier de l'enseignement secondaire. Alors effectivement, moi je vois, on a vu des tweets en disant « je me compare, j'ai une meilleure note que mon copain d'à côté, et puis lui il est mieux classé que moi ». Effectivement, il y a un vrai choix politique qui a été fait, qui était le fait de faire des taux de boursiers qui ont été définis par les recteurs. Et effectivement, quand les boursiers sont classés enfin, nous on s'assure que le taux fixé par le recteur de boursier dans la formation, il est respecté. Et la nouveauté, peut-être pour le dire à René, c'est qu'il n'y avait pas jusqu'à présent de ces taux pour cette valorisation en fait du caractère de boursier, pour encourager la démocratisation de l'enseignement supérieur. Et notamment pas dans les filières sélectives, c'est le cas des BTS. Et c'est un vrai choix politique pour faire avancer cette question de la démocratisation, notamment sur les BTS, très demandée cette année.
Sonia
Bourane. Oui, pour compléter, effectivement, les établissements d'enseignement supérieur ont établi leur classement et ensuite ça a été retravaillé par le ministère au sein de logiciels.
Le ministère,
vous avez réintroduit des critères.
C'est l'algorithme qu'on a publié, c'est-à-dire que c'est transparent, c'est visible par tous, on l'a publié avant la procédure d'admission, de manière à ce qu'on puisse voir toute la logique. Alors j'entends que ça peut avoir des modifications, mais je rends compte que c'est un élément, c'est pas le ministère qui l'a décidé comme ça, c'est la loi qui est organisée, les recteurs ont fixé des taux et ces taux sont appliqués.
Donc des taux de boursiers, il y a aussi des taux par rapport à la sectorisation ?
Absolument, mais ce n'est pas le cas sur les BTS puisque ce sont des filières sélectives et la sectorisation ne concerne que des licences à l'université.
Voilà, pour l'université, ça a été le cas. C'est-à-dire que des universités ont vu leur classement bouger en fonction de la sectorisation des candidats.
Stéphane Beau.
Juste dire que justement cette réforme, elle est quand même très importante historiquement, et je trouve qu'effectivement une réforme d'ampleur de ce type, elle est faite en quelques mois. Je pense qu'il y a le côté blitzkrieg, côté vraiment mise sous pression permanente de l'ensemble du système, qui est très coûteuse un peu pour tout le monde, pour tous les acteurs. Je réfléchis toujours un peu en sociologue en me disant, mais est-ce qu'on n'aurait pas pu quand même attendre un an? Du côté des universitaires, par exemple, nous ne sommes pas tous satisfaits de la manière dont l'université fonctionne. Certains de mes collègues sont très contre cette réforme. D'autres se disent pourquoi pas. On vit aussi de bons étudiants, entre guillemets, en première année. Mais je pense que nous, en tant qu'universitaires, par exemple, nous avons des idées pour réformer le système de l'intérieur. Moi, ce qui me frappe toujours, c'est que voilà, tout d'un coup, tous les trois ans, on a une réforme qui nous tombe dessus, et tout d'un coup, on doit faire face, écoper, etc. Donc là, je trouve, ce genre de témoignages, j'imagine qu'ils sont nombreux, montrent très bien qu'on aurait certainement gagné à prendre le temps, hein, même s'il y a un quinquennat, bien sûr, qui est en jeu. Il me semble qu'on peut faire une réforme universitaire d'une telle ampleur, on peut la faire sur au moins deux ans. Voilà.
Lila Lebas, un petit mot.
Mais évidemment, rebondir très rapidement sur l'ampleur de la réforme et sur le changement profond que ça instaure pour l'accès à l'université en particulier, plus qu'à l'enseignement supérieur, puisqu'il y avait déjà des filières sélectives, mais là du coup on introduit une sélection partout, et je pense qu'effectivement on aurait pu arriver à avoir de véritables concertations, débats pour pouvoir prendre en compte les revendications des différentes organisations. Mais je voulais rebondir rapidement sur les quotas des étudiants boursiers, puisque on voit bien, notamment dans les universités, c'est très différent d'une université à une autre. On a des universités parisiennes, par exemple à Paris 2, où on a un quota de 2% de boursiers, ou par exemple à Paris 13, où ça va autour de 11-12%. Et donc pour moi, c'est pas dans ce sens-là qu'on va démocratiser et qu'on va permettre à plus de jeunes, notamment les plus précaires, d'avoir accès à la filière de leur choix, selon les universités où ils souhaitent aller. Et donc on voit bien que ces quotas-là, aujourd'hui, encore une fois, ils ne permettent pas l'affichage qui est annoncé par le ministère, puisqu'ils sont calculés en fonction des vœux des bacheliers dans ces filières. Et il y a un système d'autocensure très fort qu'il se fait vis-à-vis des boursiers lycéens, parce que c'est le taux de boursiers lycéens, qui ne postulent pas dans des universités dites plus prestigieuses que d'autres, entre gros guillemets, et qui donc s'autocensurent. Et on voit bien qu'il y a encore une forte disparité.
Jérôme Théliard, et après on repart au standard.
Ne faisons pas croire que l'autocensure, elle est née avec Parcoursup. L'autocensure, elle existe dans le système, et au contraire, des mécanismes, on se donne enfin les moyens avec des mécanismes qui vont porter des fruits dès cette année. On en parlera quand la procédure sera achevée, on verra effectivement les comptes, mais qui vont s'installer dans la durée. Et c'est ça qui crée des incitations pour les jeunes. Ça va changer la manière dont les enseignants encouragent leurs élèves dans l'enseignement secondaire à oser finalement aller sur des filières qui ne leur étaient pas ouvertes. Et je pense notamment aux filières sélectives, les BTS, les CPGE, des écoles d'ingénieurs par exemple. Et puis pour revenir pour la question de M. Beau, qui est légitime, qui est de dire pourquoi on est allé vite.
Si vite.
Pourquoi on est allé si vite? Parce que la CNIL a décidé au mois d'août dernier que le système APB ne pouvait plus fonctionner parce que les conditions du tirage au sort et les conditions de l'opacité du système ne pouvaient plus être tolérées. Donc le gouvernement a dû prendre aussi ses responsabilités, organiser un nouveau dispositif et le mettre en œuvre pour la rentrée 2018. Mais tout n'est pas figé. Le principe de l'évaluation, il doit permettre de faire des améliorations, il doit permettre d'entendre les acteurs. La ministre s'est engagée à un comité de suivi dans lequel il y a des universitaires. Je pense à Madame Durubella, je pense à Monsieur Dubé, je pense à d'autres encore, Olivier Galland, par exemple, qui sont spécialistes de ces questions, pour qu'ils viennent aussi tirer de compte des témoignages, des vôtres, des enseignants, pour faire évoluer le dispositif. C'est aussi l'engagement, c'est pas un dispositif figé.
On repart au standard
France Inter. 18-20. Vos questions au 01 45 24 7000 et sur les réseaux sociaux avec le mot-clé TELSON.
Bonsoir Philippe.
Bonsoir.
Vous êtes sur l'antenne, on vous écoute.
Oui, moi c'est un témoignage en fait que je voulais apporter. Je suis professeur de terminale, professeur principal de terminale. Et je suis quand même un peu sceptique par rapport à cette réforme. Moi c'est surtout le côté anxiogène vis-à-vis de mes élèves qui m'a surpris en fait. J'ai eu le cas de quelques élèves qui ont obtenu des vœux qu'ils ne souhaitaient absolument pas et qui vont se retrouver dans une filière complètement par défaut. J'ai le cas d'un élève par exemple qui souhaitait aller en école militaire, un bon élève, hein, avec 4 vœux à travers la France. Donc ça aussi c'est pas évident parce que bon, c'est des élèves qui avaient pris le parti de partir très loin de chez eux. Et alors lui se retrouve en fac de droit. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a même dit, sans aucune ironie, j'essaierai de planter mon bac pour recommencer mon vœu l'année prochaine, parce que je veux vraiment cette, cette école militaire. Alors je lui ai dit que c'était pas forcément une bonne idée et qu'il pouvait faire refaire son vœu tout en étant en fac de droit, mais on est arrivé à quelque chose de très très compliqué, de très anxiogène. Ce sont des élèves qui devaient réviser leur bac, qui autour du 22 mai, si ma mémoire est bonne, ont eu le résultat, les résultats de Parcoursup, qui ont vu tous les matins et tous les après-midi leur place, leur rang dans les écoles évoluer. Alors il était 24e le matin, il était passé 22e, il était 18e. C'est très compliqué pour un enfant de 17 ans de rentrer dans ce système-là.
Merci Philippe.
Les élèves se demandaient aussi, juste fini, les élèves se demandaient aussi comment la sélection se faisait, comment ils pouvaient passer comme ça de la 17e à la 16e place, comment son dossier était pris en compte. Voilà, donc tout ça a été très compliqué.
Merci beaucoup Philippe, et je précise que ce que vous rapportez comme témoignage, on en a entendu plein comme ça, hein. Les jeunes qui passent leur temps à se connecter pour essayer de savoir à quel rang ils sont, et c'est vrai que c'est pas terrible pour le moral, Jérôme Teilhard. Ben,
je voudrais rassurer tout le monde, il n'y a qu'à une actualisation le matin. Donc je veux bien qu'on m'explique que l'après-midi on a regardé, qu'on a vu changer, ça n'existe pas. Donc il faut relativiser. Et moi j'entends Philippe, hein, c'est la question de l'angoisse, mais là aussi... ne faisons pas comme si l'année passée ou les années précédentes, au moment du baccalauréat, tout le monde savait où on allait. Ça n'existe pas.
Enfin, on voit quand même des choses qu'on ne voyait pas avant. Mais on voit des boîtes de coaching qui se mettent à conseiller
Le coaching, il existait. Oui, il existait sur APB.
Moyennant plusieurs centaines d'euros pour aider à faire un dossier sur les attendus, etc.
Les attendus, ce sont les universités qui les ont faites. Et on a mis en place un deuxième professeur principal dans chacun des établissements scolaires pour précisément accompagné. Et puis peut-être pour revenir sur la question que posait Philippe à travers, il y a une CPGE, une école militaire très sélective. Évidemment, il y a des choix très sélectifs. Et peut-être pour qu'il puisse conseiller le lycéen, c'est que, on l'a évoqué tout à l'heure, la phase complémentaire est aussi ouverte à quelqu'un qui n'a pas eu un vœu qui correspondait. Moi, il a la possibilité de regarder, de se positionner, de voir les places vacantes. Donc la différence entre APB et APB, c'était fini. On avait une proposition, on la refusait, on était démissionné, il n'y avait aucun système de rattrapage en quelque sorte. Là, avec Parcoursup, on a ces différents dispositifs, il peut choisir, il a pu voir un vœu qui ne lui était pas sur lequel il était refusé, puis un autre qu'il a accepté, c'est aussi la logique. Alors effectivement, c'est une nouveauté, ça arrive en un an et c'est peut-être perturbant. Mais je crois qu'on a ce travail-là, tous collectifs, à faire cette pédagogie du dispositif qui donne le dernier mot aux candidats.
Sonia Bourane.
Mais la particularité aussi de ce nouveau système, c'est la lenteur. C'est-à-dire que ça dure des semaines et les élèves sont quand même angoissés. Et c'est vrai que la question du redoublement se pose beaucoup. Moi, au cours de mes reportages, j'ai énormément entendu d'élèves qui disaient « mais je vais redoubler ». Donc alors que c'est des élèves qui peuvent tout à fait avoir le bac. Donc c'est assez inquiétant.
Je peux entendre le bac est une angoisse collective qu'on a tous à peu près connue autour de cette table.
Ce sont des élèves qui veulent volontairement rater leur bac.
Laissons-les passer leur bac. Je rappelle aussi, parce que peut-être ça répond à la question tout à l'heure, le bac, il a toujours un sens, puisqu'on accède à l'université avec le baccalauréat. Il va y avoir, si je prends les chiffres de l'an dernier, c'est 12% des élèves qui ne réussissent pas leur bac. Et à ce moment-là, ils sont démissionnés de la procédure. Donc le bac a toujours son sens. Effectivement, il va y avoir d'autres propositions. Mais je rappelle, la procédure APB, elle se terminait aussi en septembre. Enfin, ne faisons pas croire non plus que tout était figé et définitif dès le mois de juin.
Lila Lebas.
Oui, moi je voulais rebondir sur deux éléments quand même où je trouve qu'on ne peut pas justifier cette réforme en disant que ça existait déjà avant. Quand on fait une réforme, c'est pour quand même améliorer les choses. C'est justement ce qu'on dénonce, c'est qu'elle ne soit pas ambitieuse et qu'elle ne permet pas à plus de jeunes d'avoir accès à l'université. Oui, il y avait déjà des problèmes avec l'admission post-bac.
C'est ça l'ambition.
Justement, non, c'est pas ce qui est en train de se faire concrètement pour les jeunes bacheliers. En tout cas, on a un désaccord dessus. Et cette réforme est véritablement, effectivement, anxiogène et très lente pour les jeunes, les futurs bacheliers, puisque on a des centaines de jeunes qui n'ont toujours rien. Et ça, je pense que c'est quand même assez important. Les procédures complémentaires existaient déjà sur admission post-bac. Moi, je pense que la question, c'est plus comment aujourd'hui on donne les mêmes droits à cette génération qu'aux précédentes. C'est-à-dire qu'avec le baccalauréat baccalauréat, pouvoir faire les études de son choix à l'université et pouvoir tout simplement réaliser son projet d'études et son projet professionnel. Aujourd'hui, on demande, vous l'avez dit tout à l'heure, à des jeunes de 17 ans de faire des lettres de motivation, de réaliser parfois des CV, etc. pour postuler sur Parcoursup. Et ce n'est pas vrai que tous les jeunes de 17 ans ont déjà un projet d'études, un projet professionnel complètement figé. Et ça, je pense que c'est quand même tous ces caractères-là qu'on supprime avec Parcoursup.
Stéphane Beau, chacun son tour, pas trop long.
Deux choses rapidement. D'abord, effectivement, cette capacité de faire des projets, d'écrire des lettres de motivation, bien sûr, elle est très socialement différenciée. L'inquiétude qu'on peut avoir, bien sûr, c'est aussi que cette structure, on pourrait dire, d'incertitude, d'anxiété, etc., collective, est-ce qu'elle n'est pas aussi incitatrice, elle va pas inciter un certain nombre d'élèves à choisir très vite la filière privée du post-bac, parce que depuis 10 ans, on s'aperçoit qu'effectivement, l'enseignement privé, un tas d'écoles, de journalistes, de médias, de tout ce que vous voulez, c'est créé, parce que c'est un marché juteux, l'enseignement supérieur. Et donc moi, la crainte que j'ai, notamment par rapport à cette réforme, si brutalement mise en place, c'est qu'effectivement, la structure d'incertitude est telle qu'une partie des élèves qui auraient été des futurs étudiants vont aller dans les structures privées qui vont les accueillir bras ouverts et payer 5 000, 6 000, 7 000 euros par an pour des scolarités privées à l'abri de cette incertitude.
Jérôme Teilhard, et ensuite on va voir quand même quelques questions très pratiques sur la suite du calendrier.
Moi j'entends qu'il puisse y avoir des craintes, et c'est légitime de s'interroger, et c'est précisément pour ça qu'on a mis en place des comités de suivi, qu'on publiera les données de manière à ce que on puisse effectivement évaluer les effets de la réforme. Mais je voudrais pas non plus qu'on oublie la situation de la licence aujourd'hui. C'est 60% d'échecs en première année. L'enjeu, il n'est pas simplement...
C'est un chiffre tout à fait contestable, ça.
Non, c'est pas un chiffre contestable.
L'enquête récente de l'économie statistique montre que 60% des élèves réussissent en leur licence. C'est pas 60% d'échecs.
L'échec de la licence est véritablement l'enjeu aussi de la réussite. C'est le deuxième terme de la loi.
Sonia Morane.
Oui, j'avais juste une remarque sur est-ce que Parcoursup améliore les choses par rapport à APB. Moi, j'ai juste cité un chiffre. L'année dernière, avec APB, 53% des candidats ont obtenu leur premier vœu à l'issue de la procédure normale. Donc, ça veut dire qu'on est à peu près dans les mêmes chiffres cette année, puisqu'on a à peu près la moitié des candidats qui ont répondu un oui définitif. Donc, finalement, on se rend compte que la procédure ne change peut-être pas grand-chose par rapport à ce qu'il y avait l'année dernière.
On va repartir au standard de France Inter parce qu'il est déjà 19h50. Après, promis, vous aurez tous la parole. Et puis surtout, encore une fois, on verra les questions très pratiques pour la suite des événements parce qu'il y a des changements, notamment dans les délais. Jean-François nous appelle à son tour. Bonsoir de Saint-Éloi, Jean-François.
Oui, bonsoir. Je vous remercie de prendre mon appel. C'est à la fois un témoignage et puis une question. C'est le cas de mon fils qui, l'année dernière, donc, a eu son bac, qui avait postulé sur APB pour intégrer une filière STAPS. Et il n'a pas été retenu au tirage au sort. Donc l'année précédente, ça a été une année blanche pour lui. Il a repostulé cette année sur Parcoursup et il se retrouve sur liste d'attente. Donc ma question, c'était de savoir, il a déjà son bac, donc il est bachelier. Qu'en est-il des étudiants en réorientation qui ont déjà leur bac ? Est-ce qu'ils passent après les bacheliers ou... Qu'en est-il ?
Merci Jean-François pour cette question, Jérôme Teilhard.
Alors, ils ne passent pas après, ils sont en même temps dans l'ensemble de la procédure, puisque elle est ouverte à la fois aux bacheliers, mais elle est ouverte aussi aux étudiants en réorientation. Et pour reprendre toujours le fil de notre discussion, la phase complémentaire, elle permet à un étudiant qui s'aperçoit au mois de juin qu'il a échoué de repostuler sur une autre lorsqu'il a un vrai projet de réorientation. C'est ça l'enjeu. Après, sur STAPS, on a créé 3000 places supplémentaires cette année. Évidemment, c'est une filière en tension. Il y a eu moins de candidats, néanmoins, cette année. On a apporté une nouvelle information sur Parcoursup, c'est la position dans la liste d'attente, qui est un éclairage. Moi, je me rappelle, sur APB, il y avait beaucoup de jeunes qui appelaient en disant « Mais on en est où ?» Là, au moins, on peut le voir.
Sonia Borane.
Mais est-ce que vous pouvez nous garantir que les étudiants en réorientation ne passent pas après les néo-bacheliers ?
Non, ils ne passent pas après. Il n'y a pas de raison de passer après. Ce sont des candidats qui ont fait des vœux sur Parcoursup et qui ont été examinés par l'ensemble des filières de formation de la même manière que les candidats bacheliers.
Une petite question sur ce qui va se passer à partir de la semaine prochaine. Sonia, les délais vont changer pour en tout cas répondre quand on aura une proposition.
Oui, puisque pour l'instant, les candidats avaient 7 jours pour répondre à une proposition. On va passer la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, à 3 jours. pour répondre. Donc le calendrier va s'accélérer un petit peu. Et puis ensuite, début septembre, donc, on sera carrément à un jour pour répondre, donc pour terminer la procédure.
Ouais. Quel est l'objectif ? L'objectif, c'est évidemment de pouvoir accélérer le processus et de permettre à tous ceux de faire des propositions plus rapidement, au système de tourner plus vite. On arrive dans un processus, on est à 80% de candidats qui ont eu une proposition. Aujourd'hui, on est sur le dispositif, la phase complémentaire vient aider en ouvrant de nouvelles places vacantes. Et l'objectif de passer à 3 jours, c'est permettre des réponses plus rapides. Et un jour, je pense que vous parliez de la concertation, elle a eu lieu en juillet, très large, mais on a aussi entendu, elle s'est faite aussi dans les instances du monde universitaire, et on nous avait dit, cette période de un jour, il ne faut pas que ça soit en août, il faut que ça soit à partir de la rentrée. C'est exactement ce qu'on a fait en entendant les partenaires qui nous le demandaient.
Qu'est-ce que vous fixez comme objectif au 14 juillet, par exemple? Combien, à quel pourcentage? Alors, de...
On avait, au départ, l'objectif était 80%. Quand on avait fait des prévisions et qu'on avait discuté avec vos collègues, c'était 80% après les résultats du baccalauréat. Ce chiffre-là, il est déjà franchi. Moi, j'ai pas d'objectif là direct. Ce qu'on veut, c'est que tous les candidats trouvent au cours de l'été des propositions. Et puis, je le dis, à partir du 7 juillet, ce sont le lendemain des résultats du baccalauréat, ceux qui sont en attente d'une proposition, qui n'ont jamais eu de proposition d'admission, ils pourront être accompagnés. Nous leur proposerons un accompagnement par les académies pour les aider. Parfois, certains, comme c'était le cas de Philippe tout à l'heure, un lycéen qui finalement a peut-être un défaut d'orientation, ne savait pas exactement ce qu'il souhaitait faire, pour les accompagner et essayer de leur proposer une proposition la plus proche de leur vœu.
On repart au standard. Alexandre est en ligne depuis Toulouse. Bonsoir Alexandre.
Oui, bonsoir à tous. Merci de prendre ma question. Je voulais simplement, en tant que père de 3 enfants qui sont amenés prochainement à être concernés, indiquer que moi j'ai écouté et que les informations sur Parcoursup depuis un mois. Et globalement, bon, moi je suis favorable pour que l'accès à l'université se fasse sur certains critères un peu plus sélectifs et cohérents avec le cursus du bachelier. Néanmoins, sur la base des infos que j'ai écoutées, notamment sur France Inter, il semble que les universités et les comités de sélection qui soient mis en place permettent de favoriser quelque origine géographique. Et deuxièmement, que les outils d'aide à la décision qui ont été mis en place s'appuient sur des algorithmes non publiés ou non connus de la CNIL, alors même que APB a été supprimé justement parce que non recevable par la CNIL. Donc je voulais comprendre un petit peu plus, avoir un éclairage sur ces deux points, s'il vous plaît.
Lila Lebas.
Oui, tout à fait. Pour revenir sur le dernier sujet, sur la question de l'opacité en tant que telle du système, on nous a dit qu'il fallait mettre un système plus humain pour pouvoir permettre justement d'avoir de la visibilité sur comment le tri s'effectuerait à l'entrée de l'université. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas pourquoi on remonte ou non dans la liste d'attente, quels sont les critères exactement qui sont pris en compte. Il y a eu plein de témoignages, encore une fois, d'enseignants-chercheurs qui sont amenés à faire ce tri, qui disent qu'ils n'ont même pas le temps de regarder les lettres de motivation, qu'il y a des tableaux Excel qui sont faits assez bêtement en mettant des chiffres pour pouvoir classer plus facilement les dossiers des futurs bacheliers. Et ça se fait en totale opacité. On nous dit depuis le début que ça sera... que ce sera connu, mais c'est après la procédure. Ça veut dire que pour l'instant, les jeunes ne savent toujours pas.
On va accélérer, Sonia Bourane.
Le ministère a quand même promis que les candidats pourraient demander sur quels critères ils ont été sélectionnés.
Exactement.
Comment ça va se passer concrètement pour les candidats?
Mais en fait, ceux qui ont été refusés le 22 mai, sur des propositions sélectives, l'école militaire évoquée tout à l'heure à l'antenne, ils ont reçu une lettre leur disant effectivement qu'ils étaient refusés et qu'ils avaient la possibilité de demander des informations sur les critères utilisés, les modalités par lesquelles ils ont été examinés et les motifs pédagogiques qui ont conduit à ne pas les retenir. Voilà, ça c'est des éléments de transparence qui sont faits auprès des candidats. Et puis sur l'ensemble du processus, qu'on ait à faire un travail de pédagogie, moi je ne nie pas. C'est une réforme d'ampleur, c'est une réforme qui s'est faite dans un temps très rapide compte tenu des éléments que j'ai évoqués tout
à
l'heure.
Vous êtes quand même un petit peu en train d'essuyer les plâtres.
Mais on est en train de travailler à vitesse évidemment rapide. Il fallait changer de système. On a évoqué Alexandre évoquait le sujet du tirage au sort ou Jean-François tout à l'heure. J'ai oublié le sujet du tirage au sort. On est aussi arrivé à faire en sorte qu'il n'y ait plus de tirage au sort dans le dispositif. Il faut qu'on fasse plus de pédagogie pour que le système avance et soit mieux compris par l'ensemble des concitoyens.
Stéphane Beaupierre.
Juste, comme je reviens sur cette histoire des chiffres, parce que une partie de la réforme a été mise en place avec cet argument massif et massu en disant finalement 60% d'échecs en licence, etc. Et quand on regarde, justement, il faut les regarder de près, les travaux des sociologues, notamment ceux qui travaillent sur des données quantitatives. Donc l'enquête de Yael Brinbaum, Cédric Huguet et Tristan Poulaouec parue récemment dans l'économie statistique montre que 60% sur une cohorte d'entrée en sixième panel DEP 95, 60% obtiennent leur licence si on exclut bien sûr médecine et santé. Donc c'est pas 60% d'échecs, mais 60% de réussite. C'est important de dire ça, c'est important. Les sciences sociales et les travaux statistiques doivent être mobilisés pour ce type d'enquête.
Vous avez chacun le mot de la fin, Lila Lebas peut-être.
Oui, moi je pense très rapidement qu'il y a une différence entre faire de la pédagogie et faire de la démagogie en tant que telle sur comment le système fonctionne et sur les conséquences concrètes pour les étudiants. Encore une fois, on a une loi qui s'appelle orientation et réussite des étudiants et qui ne permet pas aux étudiants de mieux s'orienter, en tout cas d'avoir une orientation qui est choisie. Et c'est pour nous l'essentiel pour qu'un jeune puisse réaliser son projet d'études et ne permet pas non plus de mieux réussir, puisque encore une fois, quand on est orienté par défaut, eh ben, c'est l'échec universitaire qui est à la clé. Et ça, c'est particulièrement problématique.
Jérôme Teilhard.
Plus de jeunes à l'université, plus de jeunes dans l'enseignement supérieur, c'est une richesse pour la France. Et leur ambition, à travers à la fois orientation et réussite, c'est de relever ce défi-là. Relever le défi d'un meilleur accompagnement, d'une meilleure visibilité sur ce qu'est l'enseignement supérieur pour permettre à chacun de faire ses choix et de décider. C'est ça que fait le système Parcoursup, c'est le candidat qui choisit. Et puis réussite, c'est lui permet, une fois qu'on a accédé à l'enseignement supérieur, d'y réussir pleinement et en étant accompagné avec des parcours personnalisés et pas simplement un dispositif monobloc qui est pas forcément adapté, parce qu'on sait que ceux qui échouent, c'est extrêmement discriminant socialement.
Alors c'est fini, mais j'ai juste une petite question et une réponse très courte. Vous allez garder une cellule de veille cet été, comment ça va se passer là ?
Absolument, on travaille tout l'été pour accompagner l'ensemble des étudiants. Il y a le travail, le numéro vert qui est ouvert, il y a le travail aussi dans les académies. C'est une mobilisation qui n'a pas d'équivalent dans le ministère.
Juste rapidement, on a mis un dispositif en place pour aider l'ensemble des jeunes bacheliers qui auraient des difficultés, ça s'appelle SOS Inscription, pour pouvoir justement aider tous les jeunes qui seraient sans proposition ou orientés par défaut.
Merci beaucoup et allez soigner votre voix. Merci Lila Lebas, présidente de l'UNEF, Jérôme Teilhard, chef de projet au ministère de l'Enseignement supérieur. Je ne sais pas si je vous souhaite bonnes vacances cet été, hein, chargé de Parcoursup. À mon avis, vous allez avoir encore du boulot. Sonia Bourane, chargée des questions d'éducation à la rédaction de France Inter. Et bien sûr, le sociologue Stéphane Beau, qui était resté avec nous. Merci mille fois à vous. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission. Ils se reconnaîtront